Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 22 novembre 2023. Accord entre Israël et le Hamas pour la libération de 50 otages.
Le Qatar s'est imposé comme l'intermédiaire incontournable dans la libération des otages pour plusieurs raisons.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée, va nous éclairer dans un instant sur le rôle du Qatar dans cet accord entre Israël et le Hamas. Dans l'est de la RDC, l'armée promet d'arrêter tout militaire en lien avec les rebelles hutus rwandais, les FDLR. Au Congo, une journée de deuil national observée après la mort de 31 jeunes lors d'une bousculade pendant une opération de recrutement dans l'armée. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Israël a accepté une trêve de 4 jours, l'entrée de l'aide à Gaza et la libération de prisonniers palestiniens en échange de certains otages détenus par le Hamas. Davantage avec Alexandrine Loulignon.
Selon Israël, l'échange d'otages contre prisonniers va s'opérer en deux phases. D'abord, 50 otages israéliens doivent être libérés en échange de 150 prisonniers palestiniens pendant la trêve de 4 jours. Toujours selon Israël, d'autres échanges pourraient intervenir selon les mêmes modalités dans le cadre d'une extension de la trêve pour une libération d'un total de 100 otages pour 300 prisonniers palestiniens. L'accord trouvé tôt mercredi entre le Hamas, qui détient quelque 240 otages israéliens et étrangers, et Israël est l'incarnation de ce que nous pouvons faire et que personne d'autre ne peut faire, s'est félicité Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Doha œuvre depuis des semaines avec Washington et le Caire pour obtenir une libération d'otages et une trêve dans les combats.
Cet accord conclu sous l'égide du Qatar est salué à travers le monde. Le point des réactions avec Yacouba Ouedraogo.
Le président Joe Biden se dit extraordinairement satisfait du fait que plusieurs de ses âmes courageuses seront réunies avec leurs familles une fois que cet accord sera pleinement mis en œuvre. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi salue ce qu'il qualifie de succès de la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa parle d'une pause qui implique malheureusement une éventuelle reprise du conflit à un moment donné. Le président Emmanuel Macron dit œuvrer sans relâche pour que tous les otages soient libérés. La Turquie espère que l'accord aidera à mettre fin entièrement à la guerre entre Israël et le Hamas et à initier un processus vers une paix juste et durable. La Chine s'attend à une trêve qui permette d'apaiser la crise humanitaire et contribue à la désescalade. Cet accord constitue une bonne nouvelle et un développement positif selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. L'ONU évoque un pas important dans la bonne direction, mais estime que beaucoup reste à faire.
Le Qatar fait partie des pays facilitant les négociations pour la libération des otages détenus par le Hamas. Pour comprendre le rôle du petit émirat du Golfe dans la résolution de cette crise, Mouamadou Mfa a joint Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée basé à Genève.
Le Qatar s'est imposé comme l'intermédiaire incontournable dans la libération des otages pour plusieurs raisons. La première, les relations qui sont excellentes entre le Qatar et le Hamas depuis plusieurs années. C'est le seul État qui abrite un bureau politique du Hamas. On entretient de bonnes relations avec le chef politique du Hamas et l'ancien chef du gouvernement, qui est devenu aujourd'hui l'homme le plus important à l'étranger, M. Ismail Haniyeh, et le chef du bureau politique, Khaled Meshaed. Le Qatar a soutenu financièrement, évidemment avec l'accord des Américains et des Israéliens, les finances publiques du gouvernement du Hamas. Il a servi comme intermédiaire dans plusieurs opérations. La dernière à Gaza, c'est celle, bien sûr, deux semaines après, quand il a aidé à la libération des otages américains. Deuxième élément, c'est que le Qatar, depuis plusieurs années, travaille sur le soft power. Il a développé sa disponibilité sur le plan international pour se rendre utile et aider à la médiation. Le dernier point qui est important, c'est que le Qatar entretient de bonnes relations avec les États-Unis. Ils sont les États-Unis. Il est très difficile d'obtenir cet accord puisque Washington a exercé une pression sur le cabinet israélien pour trouver une solution. Le Qatar aussi, même s'il n'existe pas de relations diplomatiques officielles, mais il a aussi des relations continues avec Israël, sans oublier bien sûr les relations avec l'Égypte qui a contribué dans la résolution.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée à Genève. La bande de Gaza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, a dénoncé aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la patronne de l'UNICEF, jugeant que des pauses humanitaires ne sont pas suffisantes pour arrêter ce carnage. Plus de 5300 enfants palestiniens auraient été tués en seulement 46 jours. Cela représente 115 enfants par jour, chaque jour, pendant des semaines et des semaines, a déclaré Catherine Rochelle après une visite dans le sud de la bande de Gaza. Le pape François a lui reçu séparément aujourd'hui au Vatican des proches d'otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza et des Palestiniens ayant de la famille à Gaza, mettant aussi en garde contre une montagne de morts dans cette guerre. Prions pour la paix en Terre Sainte, prions pour que les controverses ne soient résolues par le dialogue et la négociation et non par une montagne de morts de part et d'autre, a-t-il affirmé dans un appel vidéo pour la paix dans le monde et au Proche-Orient.
Dans une vidéo diffusée mardi soir, le porte-parole de l'armée congolaise.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà l'actualité africaine. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé vouloir arrêter et punir tout militaire en contact avec les miliciens FDLR des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, évoquant une tolérance zéro pour les contrevenants, quel que soit leur grade. Le point avec Antoine Roger Bolamba.
Dans une vidéo diffusée mardi soir, le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a proclamé une interdiction stricte et sans faille pour tous les soldats, quel que soit leur rang, de nouer ou d'entretenir tout contact avec des miliciens FDLR. Il ajoute que tout contrevenant sera mis aux arrêts et va subir la rigueur de la loi. La déclaration de l'armée congolaise fait suite à une récente visite en RDC et au Rwanda de la responsable du renseignement américain Avril Haines. La Maison-Blanche a déclaré mardi qu'elle a obtenu des dirigeants des deux pays la promesse d'une baisse des tensions. Les FARDC sont accusés de collaborer avec les rebelles Hutus des FDLR pour endiguer l'avancée des rebelles du M23 dirigés par des Tutsis dans la province du Nord Kivu. Les FDLR sont un groupe armé créé par des anciens responsables du génocide au Rwanda, réfugiés dans l'est de la RDC, que Kigali considère comme une menace à sa sécurité.
Au Congo, Brazzaville voisin, une journée de deuil national est décrétée en la mémoire de 31 jeunes morts dans une bousculade lundi soir lors d'une opération de recrutement de l'armée. Les précisions avec John Lindon.
Les drapeaux sont restés en berne devant les administrations publiques et les écoles à Brazzaville. Les bars et autres lieux de divertissement observent le deuil national. Mardi soir, le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala a annoncé que 31 personnes ont péri et 145 autres blessés dans la bousculade dans le stade de Michel Ornano de la capitale. Les opérations de recrutement au sein de l'armée ont été lancées le 14 novembre et de nombreux jeunes ont massivement répondu à l'appel du devoir, a rappelé M. Mungala. En plus de l'enquête judiciaire ouverte par le procureur de la République, une enquête administrative mixte, police, forces armées, est aussi en cours.
Au Mali, les rebelles Touareg ont démenti l'existence d'un charnier que l'armée malienne a affirmé avoir découvert la semaine dernière à Kidal, une ville bastion des rebelles récemment reprise par les forces de la junte et ses alliés. Le bloc de pays est-africain IGAD s'est dit aujourd'hui optimiste quant à de nouveaux pourparlers entre gouvernement éthiopien et armée de libération Oromo au lendemain de l'échec de discussions visant à mettre fin à 5 ans d'insurrection Oromia en Oromia, état régional le plus vaste et peuplé d'Éthiopie. Gouvernement éthiopien et Ola ont séparément annoncé mardi soir la fin sans accord d'un deuxième cycle de négociations en Tanzanie, se rejetant mutuellement la responsabilité de l'échec des pourparlers dont l'IGAD a su la médiation aux côtés notamment des États-Unis et de la Norvège. En Afrique du Sud, l'avocat d'Oscar Pistorius, condamné pour le meurtre de sa petite amie il y a 10 ans, espère que l'ex-champion paralympique sortira le plus rapidement possible de prison s'il bénéficie d'une libération conditionnelle en fin de semaine. Oscar Pistorius ayant été condamné en première instance, puis plusieurs fois en appel, les services pénitentiaires ont estimé, selon un décompte à la date de la dernière condamnation, Il n'avait pas purgé la moitié de sa peine, mais la Cour constitutionnelle contredit cette version, estimant le mois dernier que le décompte devait commencer à la date de la première mise derrière les barreaux du condamné pour meurtre. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lydon.
La Banque ouest-africaine de développement a franchi un cap historique en 2023 avec un cumul d'engagements s'élevant, selon Financial Afrique, à 816 milliards de francs CFA, un niveau jamais atteint depuis le début de ses activités en 1976. Cette performance, annoncée lors du conseil d'administration du 20 novembre, souligne une évolution significative dans la capacité d'intervention de l'institution. Le chiffre d'affaires cumulé des start-up spécialisées dans les technologies financières, les fintech actives en Afrique, devrait atteindre 15 à 20 milliards de dollars en 2028 contre 3 à 4 milliards de dollars en 2022. C'est ce que souligne l'agence Ecofin s'appuyant sur un rapport publié le 24 octobre par le cabinet de conseil McKinsey & Company. Il n'aura fallu que quelques jours à Microsoft pour reprendre OpenAI en main en réinstallant Sam Altman, la star de la Silicon Valley, à sa tête avec un conseil d'administration remanié. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a joué un coup de maître lundi en annonçant embaucher Sam Altman, à peine évincé d'OpenAI, la pépite de l'intelligence artificielle à l'origine du logiciel ChatGPT.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Mondial de moins de 17 ans, le Sénégal s'incline devant la France en huitième de finale.
Oui, après un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire, les Lionceaux de la Teranga sont tombés face à la France au tir au but, 5 tirs réussis contre 3. Hier, le Mali et le Maroc ont arraché leur ticket pour les huitièmes de finale et vont s'affronter en quart de finale ce samedi 25 novembre. Une certitude donc, l'Afrique aura un représentant en demi-finale. Pour les autres quarts de finale, l'Allemagne fera face à l'Espagne, l'Argentine va défier le Brésil et la France affronte l'Ouzbékistan.
Les dernières rencontres de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique se sont disputées hier.
Le Sénégal a été tenu en échec par le Togo à Lomé, 0-0. Les Lions de la Teranga partagent ainsi la tête du groupe B avec le Soudan, 4 points chacun. Dans la poule D, le Cameroun aussi a partagé la poire en deux avec la Libye, 1-0. Les deux étant en tête, mission réussie pour les Comores qui ont surpris le Ghana, battu 1-0, et sont en tête de leur poule. Le Burkina Faso a battu l'Éthiopie 3-0 pour se repositionner dans le groupe A, dominé par l'Égypte. Belle opération pour le Rwanda qui s'empare de la tête de la poule C après sa victoire 2-0 devant l'Afrique du Sud. Toujours dans cette même poule, 0-0 entre le Bénin et le Lesotho. La Guinée a été surprise par le Botswana 1-0. Carton plein pour la Tunisie en tête du groupe H grâce à sa victoire 1-0 face au Malawi. Le Maroc a fait l'essentiel à Dar es Salaam en dominant la Tanzanie 2-0. Romain Saïs, capitaine des Lions de l'Atlas.
On savait que ça allait être un test pour nous au vu de la Coupe d'Afrique. Donc voilà, on voulait bien commencer le match, c'est ce qu'on a fait. Même si on rate le pénalty, c'est anecdotique parce qu'après on a marqué deux buts. On a fait les efforts, on voulait retrouver la solidité qu'on avait. C'est bien pour la suite, donc il y avait des bonnes choses malgré que le terrain c'est compliqué. On a essayé de jouer malgré tout, donc on est très content et on va pouvoir arriver avec de la confiance pour la Coupe d'Afrique.
Romain Saïs, capitaine des Lions de l'Atlas, au micro d'Amin Birouk.
Basketball, les Lakers et les Pacers, premiers qualifiés pour les quarts du nouveau tournoi NBA.
Les Lakers ont décroché leur billet pour les quarts du tournoi in-season, mis en place cette année par la NBA en battant le Jazz de Utah 131-99, avec 17 points inscrits lors de cette soirée. LeBron James devient le premier joueur à dépasser la barre des 39 000 points inscrits. Vainqueur 157-152 à Atlanta, les Pacers d'Indiana ont eux aussi obtenu leur sésame pour les quarts de finale du tournoi. Mis en place cette année par la NBA, le In-Season Tournament est une compétition organisée d'abord par groupe avant une phase finale. Toutes les rencontres disputées pour ce tournoi, à l'exception de la finale, comptent pour le classement de la saison régulière. Dans les autres rencontres de la soirée, Phoenix s'est imposé 120-107 face à Portland. Orlando a battu Toronto 126-107. À Philadelphie, les Sixers du MVP camerounais Joel Embiid, 32 points, 13 rebonds, se sont inclinés en prolongation 122-119 face aux Cavaliers de Cleveland.
Page de sport VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La campagne électorale bat son plein en République démocratique du Congo depuis dimanche. Des désistements et des ralliements ont été annoncés pour la présidentielle. Comment se déroule-t-elle jusqu'à ce point, la campagne? Quels sont les acteurs qui sortent du lot jusque-là? Eddy Sango a joint à Kinshasa le président de l'Union de la presse dans la capitale congolaise et directeur général de la radio TV Télé 50, Jean-Marie Kassamba.
Écoutez, la campagne électorale a commencé depuis ce dimanche dernier. Elle est timidement lancée à partir de Kinshasa pour Félix Tshisekedi. Mais c'est vers Kisangani que Moïse Katumbi a préféré lancer la sienne. Elle est très timide, la campagne électorale. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de moyens de campagne qui se sont déployés, aussi bien ici à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. C'est comme si il y a moins de effervescence dans le chef de candidat eux-mêmes et la population y participe d'une manière assez clairsemée.
Vous avez cité deux candidats, mais il y a 26 candidats. Bon, on a appris qu'il y aurait des ralliements, mais quels sont les principaux candidats qui sortent du lot? Combien sont-ils à peu près?
En réalité, c'était les duels Tshisekedi Katumbi qui s'annonce, parce que les autres candidats sont soit des circonstances, soit n'ont pas suffisamment d'ancrage et n'ont pas de moyens de leur politique. Fayulu allait être un candidat de taille s'il n'avait pas tergiversé un tout petit peu dans la participation à ces scrutins. Maintenant, les choses se dessinent. D'un côté, Félix Tshisekedi peut rempiler, mais avec beaucoup de difficultés, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont déployés de part et d'autre. Et puis, il y a beaucoup de désinformations sur son bilan, sur la réalité des terrains, etc. Mais l'inconnu de tout ceci, c'est plutôt Katumbi, parce que à part le ralliement, il a suffisamment déployé de la logistique. Et son discours est plus ancré sur le bilan et les conditions de vie des Congolais.
Vous citez Katumbi, mais dans l'opposition, tout le monde n'est pas derrière Katumbi. Il y a par exemple le docteur Denis Mukwege. Et d'ailleurs, après les réunions de l'Afrique du Sud, il semble aller en ordre dispersé. Ne pensez-vous pas qu'ils vont sélectionner les deux buts de la campagne?
Bon, je pense que Mukwege, il est un candidat, on va plus au niveau de la communication internationale, parce que au-delà de la cause noble qu'il a défendue depuis longtemps, il n'a pas suffisamment d'assises, notamment à l'Ouest, mais la population adhère facilement à son combat. Mais le programme présenté, même s'il a Didier Moumengi, qui est un excellent analyste, un bon écrivain et surtout un intellectuel détail, il n'a pas encore réellement convaincu, parce que ces quelques sorties des Mukwege ne sont pas très emballantes par rapport à la population, etc. Il pourra, tout compte fait, je pense, se rallier soit Katumbi, soit peut-être faire allégeance à Tshisekedi, ce qui n'est pas très probable.
Pas à Fayulu.
Bon, Fayulu, il se cherche encore. Je vous ai dit qu'il a fait gripper sa démarche avec ses tergiversations quant à l'entrée effective dans le processus.
Jean-Marie Kassamba, président de l'Union de la presse congolaise dans la capitale congolaise et directeur général de la radio TV Télé 50.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Burkina Faso estime que la coopération sud-sud peut lui permettre de faire face aux menaces terroristes. Le directeur général de la police burkinabé a fait cette déclaration à Kigali, où il effectue une visite d'une semaine de Kigali. Le récit de Jean Damascène Manichimoué.
Le Burkina Faso est confronté aux attaques terroristes en Afrique de l'Ouest. Pour contrer cette menace, le Burkina compte élargir sa coopération sécuritaire avec le Rwanda. Pour le contrôleur général de la police burkinabé, Roger Ouédraogo, la coopération intra-africaine est d'une grande importance.
Les défis qui se posent à la sécurité intérieure au Burkina Faso sont les défis qui se posent un peu partout. Vous savez qu'il y a la grande criminalité, vous savez, il y a la criminalité urbaine, transnationale organisée, et depuis quelques années, nous avons le terrorisme aussi au Burkina Faso. Donc l'ensemble des forces de défense et de sécurité s'investissent au quotidien dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes véritablement dans une dynamique de coopération sud-sud. C'est-à-dire que avant de se tourner vers d'autres horizons qui sont plus ou moins lointains, c'est important de se tourner vers les voisins, de se tourner vers les pays africains qui ont du modèle, qui ont du potentiel, qui ont de l'efficacité en fait.
L'inspecteur général de la police du Rwanda, commissaire général Félix Namuhorani, estime pour sa part qu'il faut déraciner d'abord les causes lointaines du terrorisme.
Nous avons défini notre sécurité à partir d'une perspective humanitaire. Un affamé est un criminel potentiel. Si quelqu'un n'a pas de logement, il n'est pas sécurisé alors que nous sommes chargés de la sécurité. Envisager la sécurité dans cette perspective doit nous pousser à privilégier la police communautaire.
Pour Damien Mouzoun, analyste béninois, les pays africains doivent renforcer leur coopération avant de se tourner vers le monde occidental.
Aujourd'hui, les pays comme le Burkina Faso, les pays comme le Mali, comme même le Tchad ou le Niger et tout, et j'en passe, je pense que tous ces pays ont besoin d'une certaine coopération, d'une certaine collaboration déjà entre eux, ce qu'ils ont commencé. Et l'étape suivante, quand ils se déplacent maintenant vers des pays pour venir jusqu'au plus loin que le Rwanda, qui a quand même fait ses preuves à travers l'intervention au Mozambique et aussi en Afrique centrale et dans d'autres pays, je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi à partager, mais tout en laissant les portes et les fenêtres ouvertes et en se garantissant que nous sommes dans une réalité aujourd'hui où pour arriver, il faut forcément que le travail soit fait de base et à tous les niveaux.
Cette visite du directeur général de la police burkinabé au Rwanda intervient quelques jours après celle du chef d'état-major des forces armées du Burkina Faso au Rwanda, dans la même optique de renforcer la coopération sécuritaire. L'armée rwandaise est déjà très appréciée en République centrafricaine, où elle a contribué à ramener la paix dans plusieurs régions, tout comme elle a combattu les djihadistes dans la région de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Jean Damasene Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.7 à Kisangani.
Au Sénégal, l'année scolaire démarre sur les mêmes bases que la précédente pour les élèves de l'enseignement public du pays. Un mois et déjà un mouvement d'humeur des enseignants, une situation qui inquiète élèves et parents alors que le ministre de l'Éducation durcit le ton. Un reportage de notre correspondant au Sénégal, Wani Johnson Sambou.
C'est une année scolaire presque classique pour les élèves de l'enseignement public du Sénégal. Un mois seulement après le début des cours, ils ont déjà vécu une première grève des enseignants. Suffisant pour plonger l'enseignant Kouyaté, élève en classe d'examen et sa mère, dans une angoisse crispante.
C'est un peu compliqué pour nous les élèves. Et si on fait une année blanche, ceci, cela, avec des grèves, on ne va pas être à 100% pour préparer notre examen. C'est cette perturbation qu'on n'a pas envie de faire. On a envie d'une année riche et une année sans grève. C'est ça seulement qu'on demande aux enseignants et aux ministres.
Frustration pour un parent de vivre ça, pour son fils surtout, qu'il passe dans une classe d'examen. Aucun parent peut accepter que son enfant vienne à l'école pour étudier avec des grèves. Il retourne à la maison, il commence à se stresser.
Des grèves pour lesquelles les enseignants sont souvent pointés du doigt par les autorités, mais également par certains parents d'élèves. Une méprise selon Malik Youm, secrétaire général du QSEMS, syndicat à l'origine de la grève.
Quand les parents constatent qu'il y a des syndicats qui se battent, la première source d'information qui doit leur parvenir, c'est de savoir que, quand même, ces syndicats se battent uniquement pour le bon déroulement des enseignements et apprentissages. Ces syndicats se battent pour qu'on ait une école de qualité au Sénégal. Ces syndicats se battent pour que leurs propres enfants, parce que nous aussi, enseignants, nous rappelons que nous sommes des parents d'élèves, pour que nous aussi, en tant que parents d'élèves, nous tous, nous puissions avoir la meilleure des écoles.
Le ton est monté du côté de l'État après cette première grève, un mois à peine après l'ouverture des classes. Le ministère de l'Éducation, qui n'a pas répondu à notre demande d'interview, menace les syndicats d'enseignants de revenir sur les engagements de l'État. De quoi alimenter les craintes d'une nouvelle année de perturbations. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
331 000 doses du vaccin Mosquiris RTS contre le paludisme sont arrivées hier au Cameroun. C'est le premier pays à recevoir ce nouveau vaccin. Il va être administré dans 43 districts de santé aux enfants sous forme de première dose. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julinta.
La cérémonie de réception du vaccin contre le paludisme a connu la participation des partenaires internationaux ayant contribué à la mise à disposition de ces premières doses. Juliette Aini, représentante par intérim au Cameroun du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF.
C'est le premier pays en fait au Cameroun qui reçoit ces vaccins contre le paludisme. On vise essentiellement les enfants de 6 à 24 mois dans les endroits les plus vulnérables. Il y aura plusieurs doses à prendre pour chaque enfant. Il y a 4 doses à prendre à 6 mois, 7 mois, 9 mois et 24 mois.
Le Cameroun a bénéficié de ses premières doses de vaccins grâce au soutien de l'Alliance Gavi, une organisation internationale qui assure l'accès aux vaccins des enfants dans les pays les plus pauvres du monde. Demba Dial, représentant de Gavi au Cameroun.
Gavi soutient 18 pays qui sont éligibles à ce vaccin contre la malaria historique. Et le Cameroun pourrait être même l'un des premiers pays en fait, à introduire ce vaccin-là. Contre le paludisme. Donc c'est vraiment hyper important. Et nous continuerons en fait ce soutien. L'Alliance Gavi continuera ce soutien au gouvernement du Cameroun pour que l'accès en fait soit un accès universel.
Le Mosquiris RTS SASO1, nom de baptême du vaccin contre le paludisme, a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Docteur Faniel Abimana, représentant résident de l'OMS au Cameroun.
But this vaccine is being provided through a coalition of several partners, including Gavi. Of course, the vaccine was developed by the company called GSK, which is a British company, and the WHO played an important role in ensuring through evaluations in 3 countries in Africa, in Kenya, in Malawi, and in Ghana, to make sure that the vaccine is safe, and indeed, over 1.7 million children in those 3 countries have already received the vaccine.
Le Cameroun fait partie des 11 pays au monde qui ont encore un taux de mortalité élevé au paludisme. En 2022, selon le ministère de la Santé publique, cette maladie a tué 2481 personnes. Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique.
Je souhaiterais tout simplement que sur le terrain, dans les 42 districts qui ont été choisis, que nous puissions sensibiliser, que nous puissions faire vacciner nos enfants pour pouvoir leur permettre de grandir dans de bonnes conditions.
Le Cameroun compte 203 districts de santé. Le gouvernement souhaite réduire le taux de mortalité du paludisme de 70% avec l'acquisition de plus de 300 000 doses de vaccins. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.